Mobile studio.
Studio mobile, Radio Dua, ici à Pompompom.
Nathalie, bonjour.
Bonjour.
Alors ici, on est au stand de la Fédération des syndicats d'élevage ovin de la Drôme. Hein ?
Voilà, c'est ça.
Quel est le bilan de cette journée pour le moment, malgré le temps qui laisse à désirer ? Il y a quand même une fréquentation relativement importante quand même.
Malgré le temps, oui, on a quand même pas mal de courageux qui sont venus, même dès ce matin où ça pleuvait beaucoup, qui sont venus voir, intéressés par l'élevage et par le pastoralisme. Donc je pense qu'encore une fois, on verra à la fin de la journée, mais c'est encore une bonne journée qui permet de communiquer sur le métier d'éleveur, de berger, sur l'élevage ovin, les difficultés qu'on rencontre, mais aussi tout ce qu'on a à offrir au niveau des produits de l'élevage, le fromage comme l'agneau, qui sont un peu le symbole de la production ovine dans notre département.
Vous parliez de difficultés. Aujourd'hui, on peut parler essentiellement du loup.
Sur notre territoire, oui, c'est la grosse problématique qui ne se retrouve pas forcément à l'échelle nationale. C'est un peu la difficulté qu'on a à faire entendre la voix des éleveurs, c'est que la région Rhône-Alpes et la région PACA sont très très touchées par la prédation, mais ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres régions au niveau national quand on va en Limousin, en Midi-Pyrénées ou dans d'autres régions d'élevage qui sont assez préoccupées par le prix de l'agneau qui est aussi une chose que le syndicat défend au nom des éleveurs. Mais c'est vrai que la prédation est dans cette région une problématique de tous les jours pour les éleveurs, du quotidien, de la nuit comme du jour.
Et quelles sont les autres problématiques ?
Alors comme je le disais, on va avoir le prix et globalement la valorisation de l'agneau, qui est une problématique assez importante aussi en général dans l'élevage ovin. C'est-à-dire que là, au jour d'aujourd'hui, les éleveurs qui vendent, que ce soit surtout en coopérative ou directement à des magasins, ne peuvent pas toujours vendre au prix réel de ce que ça leur coûte. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a les aides de l'Europe, de la région et de l'État qui permettent en fait aux éleveurs de vivre tout simplement. Et les aides de la région, de l'État et de l'Europe, c'est aussi une des problématiques du syndicat. C'est-à-dire que le syndicat va défendre les éleveurs et leurs intérêts face à ça dans les négociations avec le ministère et dans les négociations avec l'Europe pour obtenir des aides qui soient le plus bénéfiques.
Alors la Fédération des syndicats d'élevage ovin de la Drôme fait partie d'une corporation plus importante au niveau national ?
Oui, donc là, effectivement, on cotise notamment à la FNO, qui est la Fédération nationale ovine, qui est en fait notre relais au niveau national, notamment auprès du ministère, comme j'expliquais tout à l'heure. Voilà.
Et ça, c'est une particularité spécifique qui n'a rien à voir avec d'autres fédérations nationales d'exploitation agricole.
Alors si, la FNO appartient elle-même à la FNSEA, que probablement beaucoup de gens vont connaître à qui ça va parler. Alors après, c'est vrai que la FDO, pour le coup, n'est pas directement reliée à la FNSEA. La FDO, donc Fédération départementale ovine, c'est l'autre nom de la Fédération des syndicats d'élevage ovin, ne défend pas forcément les positions de la FNSEA. En fait, la FDO, au niveau de la Drôme, est apolitique, c'est-à-dire qu'on n'est ni avec la FNSEA, ni avec la Confédération paysanne. On essaie de défendre majoritairement les intérêts de tous les éleveurs ovins.
Là, je vois sur votre t-shirt le mariage pour tous, et avec une brebis qui propose, on peut en parler.
Voilà,
donc ça serait d'essayer de marier le loup et la brebis.
Là, c'est vrai qu'on a utilisé cette image du mariage pour tous parce que c'est un débat qui a beaucoup fait parler en France et qui parle en fait à beaucoup de gens, même des gens qui ne connaissent pas l'élevage ovin. Et ça nous permet un petit peu de communiquer sur cette problématique, à savoir que le mariage pour tous, même les éleveurs sont pour. Mais la problématique, c'est de savoir que ça se passe dans de bonnes conditions. En fait, ce qu'on veut montrer à travers ça, c'est que la problématique, c'est pas tant la présence du loup, mais ce sont tous les dégâts qu'il occasionne sur l'élevage. C'est pareil, on a souvent une polémique de savoir combien il y a de loups en France. Moi, je pense globalement, la polémique, elle n'est pas forcément là. L'enjeu, c'est de savoir combien il y a de dégâts en France. Et ça, on le sait, ça, c'est compté et c'est réel. Et c'est ça qui nous montre les impacts de la prédation.
Est-ce que vous pensez que tout a été fait pour se prémunir du loup en France ?
Non, il y a encore beaucoup à faire, hein. Il y a encore des progrès à faire partout. Les éleveurs se protègent leurs troupeaux avec de multiples moyens, mais le loup s'adapte. Malgré ça, il y a quand même encore des progrès à faire au niveau de la protection des troupeaux. Je pense qu'il y a aussi des progrès à faire au niveau de l'administration et des services de l'État. Au niveau de la Drôme, on sait que les services de l'État nous soutiennent et nous aident beaucoup, et on les en remercie pour ça, parce qu'on sait qu'ils sont présents pour nous et qu'ils se démènent tous les jours, notamment la sous-préfecture de Die. Mais on sait aussi qu'au niveau national, il y a encore des blocages, ce qui est compréhensible, hein. Il y a encore des blocages et on sait qu'il y a beaucoup à faire. Alors encore une fois, même le ministère de l'écologie, on sait qu'il a commencé à s'y impliquer et à travailler sur le dossier, mais il y a encore à faire, effectivement. Quoi, c'est à travailler. Peut-être c'est au nombre du nombre de loups prélevés, au niveau de la régulation. Parce que là, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, on sait qu'on prélève moins de loups que ce que la population progresse. Alors que même en France, le loup n'est plus une espèce menacée comme ça a été à une époque. Le loup en France est tellement surprotégé qu'il continue de se développer. Et qu'en continuant comme ça, un jour, ça va devenir incontrôlable. Donc l'enjeu, c'est vraiment la régulation.
Oui, effectivement, par rapport à la régulation, il y avait un souci, c'est que le loup se reproduit aussi avec des chiens, et donc il y a hybridation de l'espèce, et voire même une multiplication de la portée des louves, puisque ça passe de 3 à 4 louveteaux à plus. Donc tout est faussé dans cette approche du loup.
Oui, parce que même au niveau des hybrides, on a encore une problématique au niveau de l'État, c'est qu'on n'est pas toujours au courant. Nous, en tant qu'éleveurs, on n'est pas toujours au courant de combien il y a d'hybrides, combien il y a de loups sur le territoire. Or, là où ça pose problème, c'est que ces animaux, surtout les hybrides, sont proches des brebis, sont proches des troupeaux. Et pour ça, les éleveurs devraient être informés à chaque fois qu'il y a des loups ou des hybrides, surtout les hybrides qui rôdent un peu au niveau des troupeaux. Et ça, la communication passe pas toujours.
Vous représentez combien d'éleveurs et de bergers avec la Fédération de la Drôme ?
Alors, la Fédération de la Drôme compte entre 170 et 180 adhérents, selon les années. Pour savoir ce que ça représente au niveau du département, il y a 260 éleveurs au vin. Donc on est à une bonne grosse moitié. Sachant que là, ce sont uniquement les éleveurs au vin professionnels qui ont plus de 50 brebis. Après, on a tout un tas de petits éleveurs, entre guillemets, qui ont moins de brebis, notamment les éleveurs laitiers. Souvent, ils n'ont pas toujours 50 brebis et pourtant, ils en vivent autant de leur production. Voilà. Alors, donc on a une bonne grosse moitié, pour faire court.
Vous faites principalement de l'élevage d'agneaux pour sa viande. Et pour la laine, ça, c'est toujours hors propos, trop coûteux pour en exploiter la matière ?
Coûteux, non, c'est vrai que ça reste très très marginal sur le département. Je connais un éleveur dans le Diwa qui valorise la laine, qui n'emmène plus ses agneaux à l'abattoir parce que c'est son choix. Donc effectivement, le seul produit de son exploitation, c'est la laine. Ça reste encore marginal. Disons que faire la laine, c'est un métier à part par rapport à élever des agneaux pour la viande, parce qu'il y a beaucoup de contraintes. En fait, il y a des contraintes que les éleveurs ne connaissent pas toujours. C'est-à-dire qu'il faut trier la laine, il faut tondre les brebis dans de bonnes conditions pour que la laine soit propre, soit bien triée, etc. Et ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose, en fait, à la base, c'est pas quelque chose qu'on apprend beaucoup dans les certificats de spécialisation ou dans les études. Donc du coup, il y a vraiment peu d'éleveurs qui se tournent vers ça parce qu'on leur apprend pas forcément. Voilà. Après, je pense que historiquement, c'est peut-être plus une production qui se retrouve dans les Pyrénées ou vraiment en PACA.
Vous faites de l'élevage d'agneaux avec quand même un agrément bio ?
Oui, c'est vrai que sur la région, c'est une des spécificités de Rhône-Alpes et même de la Drôme, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'élevage au vin bio. Il y a beaucoup d'exploitations bio de manière générale, et c'est vrai que même dans l'élevage au vin, on en retrouve beaucoup. C'est une des particularités du département. Notamment en élevage de brebis laitières, où on retrouve quasiment la moitié, il y a entre 40 et 50%, il y a 40% d'élevage bio laitier au niveau Rhône-Alpes, alors qu'au niveau national, la moyenne est à 3%. Donc voilà, pour dire que c'est quand même vraiment une spécificité de la région et de la Drôme.
Alors justement, quand on inclut dans l'élevage au vin, il y a la part de viande, mais il y a aussi les produits laitiers, les fromages. Ça représente toujours la même quantité de personnes, hein. Ça inclut au niveau de la fédération, non ? Ça demande encore plus d'exploitants là-dessus ?
L'élevage laitier, c'est pas une spécialité pour le coup de la Gironde-Alpes. En fait, en France, on a trois bassins de brebis laitières, c'est la Corse, l'Aveyron avec le Roquefort et les Pyrénées. En Rhône-Alpes, historiquement, c'est pas une région qui fait beaucoup d'élevage de brebis laitières. Malgré tout, c'est une filière qui est en pleine expansion parce que dans les 5 dernières années, le nombre d'élevages a doublé dans la région Rhône-Alpes. Et là, au niveau de la Drôme, on a 26 ou 27 élevages de brebis laitières recensés sur les 260 dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui est une proportion assez faible par rapport aux autres bassins historiques de production. Mais malgré tout, c'est une production qui est en pleine expansion, notamment parce qu'il y a des facilités d'installation. C'est-à-dire que c'est une production où vous pouvez vous installer avec très peu de foncier pour démarrer et aussi avec un faible nombre de brebis. Mais il y a une valeur ajoutée avec le fromage, surtout quand on le fabrique à la ferme, qui est assez importante et qui permet du coup d'avoir un projet d'installation assez solide.
Alors, les types de fromage, ce sont lesquels ?
Principalement, c'est de la tombe. On a de la tombe brebis, la tombe de Savoie, du coup, dans les autres départements en Savoie. Ici, dans le Diois, c'est principalement de la tombe qu'ils font. Après, il y a d'autres produits, comme les lactiques. Donc, on va avoir des yaourts, tout simplement, des yaourts de brebis. Ce qui est intéressant, parce que, notamment pour les gens qui peuvent être allergiques au lactose ou au lait de vache, ça reste un moyen de consommer des produits laitiers sans forcément faire une poussée d'allergie.
Est-ce que je ne connais pas un peu l'histoire de l'agriculture ovine ? Est-ce qu'il existait des fromages qui ont disparu, par exemple ?
Alors ça, j'aurais du mal à vous répondre, parce que je suis arrivée dans la région il y a un an et demi.
Ah oui.
Donc, des fromages qui ont disparu, je suis pas sûre, non. Je pense que c'est une production de tous les temps, et qui a toujours, même marginale, qui a toujours existé, et on se retrouve les mêmes... On se retrouve avec les mêmes recettes et les mêmes types de fromages que ce qui se faisait avant.
Par rapport à ce qui va se passer, vous êtes partie prenante de ce défilé qui aura lieu en fin d'après-midi au devant du
oui,
passage
oui, tout à fait.
Des animaux.
Pour nous, c'est un moyen de communiquer auprès du grand public parce que le passage du troupeau est quelque chose de très très apprécié par les visiteurs aujourd'hui. Alors, sans vouloir dire qu'on veut gâcher la fête et montrer des choses... qui vont pas plaire au grand public, pour nous c'est essentiel de pouvoir communiquer là-dessus et que les gens nous comprennent. Parce que je vous parlais tout à l'heure que les réglementations et le ministère doivent pouvoir évoluer sur ce qui est fait, mais d'une manière générale, les politiques suivent l'opinion publique. C'est toujours ce qu'on retrouve, donc si on veut que les politiques puissent changer, il faut avoir l'opinion publique pour nous, et il faut leur expliquer notre détresse et ce qu'on vit. Donc la fête de la transhumance, c'est un moyen pour nous, c'est un moyen vraiment de pouvoir communiquer sur la problématique.
C'est même dans le Diois le principal moyen d'être écouté, la transhumance. Est-ce que vous avez d'autres événements ou d'autres actions dans l'année qui permettent de rappeler au public ce problème ?
Alors on essaye régulièrement de communiquer aux moyens des médias, tout simplement. Donc on a des journaux avec lesquels on travaille régulièrement. L'agriculture drômoise, bon, qui est un journal qui est principalement avec un public agriculteur, mais on essaye régulièrement aussi de faire des reportages, notamment avec France 3, qui est pour le coup le plus écouté du grand public. Et ensuite, en termes d'événements, on a aussi la foire au bélier de Cré, qui se passe au mois de février, qui est surtout destinée à un public d'éleveurs, mais quand même, on a, par exemple, cette année, on a accueilli des jeunes de la MFR de Divageux, qui sont venus voir les béliers ce jour-là. Donc ça nous a permis aussi de parler du métier, hein, tout simplement.
Est-ce que, dans vos réflexions, je suppose que vous vous retrouvez aussi pour réfléchir à l'avenir de l'élevage ovin, mais est-ce que vous visez aussi les problématiques qui sont sur votre chemin, et même de voir s'il faut redistribuer les territoires par rapport aux loups ?
Redistribuer les territoires par rapport aux loups, ça serait de déplacer l'élevage vers des zones où il y a moins de loups ?
Ou accorder du territoire aux loups.
Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on aura...
On n'existe aucunement, puisque on passe soit de la ruralité, soit à l'urbanisation. Hein. Mm-hmm. Donc le loup n'a plus d'espace et il est obligé de pénétrer dans les deux types de paysages.
Ça, j'ai peur que d'une part les éleveurs aient du mal à l'entendre, parce que il faut savoir que quand on s'installe en agriculture, c'est-à-dire que quand on crée une exploitation, soit qu'on reprend l'exploitation de ses parents, soit qu'on s'installe, on appelle ça hors cadre familial, c'est-à-dire qu'on crée une exploitation de toutes pièces. C'est du travail, c'est du temps passé, et devoir dire à des éleveurs, bah, maintenant il y a le loup, vous devez partir, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable, et puis de toute façon, quand bien même on le ferait, pourquoi après le loup ne nous suivrait pas et ne nous serait pas encore plus loin ? Je pense qu'aujourd'hui, le loup, quelque part, on l'a exterminé au début du XXe siècle. Il y avait bien une raison pour ça. Depuis 50 ou 60 ans, ou voire vers plus que ça, l'agriculture a évolué, l'élevage s'est adapté. S'est adapté à un espace où le loup n'existe pas. Donc, quelque part, de devoir dire que nous, on doit se réadapter à la présence du loup, je pense que c'est quelque chose que les éleveurs pourront pas entendre, du moins difficilement. Parce qu'ils ont, quelque part, ils ont façonné ces paysages, c'est le thème de la transhumance aujourd'hui. Le pastoralisme façonne nos paysages. Donc laisser la place ensuite à un animal sauvage, ça va être, disons, difficile à entendre. Au mieux, une cohabitation, qui peut être possible, si on arrive à réguler la population.
Je voulais savoir si vous aviez des réflexions sur ce problème.
Eh bien oui, effectivement, il y a des exemples qui, peuvent nous montrer... Disons que la cohabitation, il y a beaucoup d'éleveurs qui y ont réfléchi. C'est une problématique qui a maintenant 20 ans dans le Diois. Je pense que les éleveurs, on leur a promis beaucoup de choses. De cohabiter, ils y ont beaucoup déjà réfléchi. Je suis pas sûre qu'on trouve aujourd'hui vraiment une solution, à part de vraiment réguler la population. Après, il y a toujours les moyens de protection qui sont mis en œuvre. Heureusement que les éleveurs protègent leurs troupeaux, parce que sinon ça serait encore plus catastrophique. Il faut se dire que là on a beaucoup de dégâts et on protège nos troupeaux. Donc qu'est-ce que ça serait si on... Déjà il y a une adaptation. Je pense que l'adaptation elle est déjà faite. Et malgré ça, il y a encore des attaques.
Nathalie, qu'est-ce qui vous a amené dans le travail sur l'ovin ?
D'un point de vue personnel, au début, ça a été un hasard complet. Parce qu'au début, quand j'étais en école, pendant les études, là, on devait faire des stages. Et j'étais en Midi-Pyrénées. J'ai trouvé un stage dans une exploitation ovine. Mais je ne connaissais vraiment rien aux brebis ni quoi que ce soit. Parce que moi, je ne viens pas d'une famille d'agriculteurs. Et ce stage que j'ai fait, ça a été pendant 6 semaines. Donc il y avait 3 périodes de 2 semaines. Et je suis tombée sur des gens formidables qui m'ont appris leur métier, qui m'ont appris leur passion. Et à partir de là, j'ai trouvé que la filière ovine, c'était quelque chose dans laquelle je voulais rester. Pour moi, la filière ovine, même à l'échelle nationale, c'est une grande famille. Parce qu'elle est quand même, à son échelle, relativement petite, disons par rapport à la filière des vaches laitières ou des vaches allaitantes. Et du coup, c'est une filière dans laquelle on se retrouve tous, en fait. Enfin, voilà, c'est comme une grande famille, on retrouve toujours plus ou moins les mêmes gens. C'est des gens qui sont passionnés. Donc c'est passionnant de travailler avec eux. Et c'est ça qui est triste quand on voit la prédation, c'est qu'on voit des élevages qui arrêtent carrément, qui se disent non, la prédation, à cause de la prédation, je dois arrêter. Je peux plus mettre mes brebis en estif parce qu'elles vont se faire manger par le loup. Et c'est ça que je trouve malheureux dans ça, c'est qu'il y a des gens qui sont obligés de renoncer à leur passion. Et quand on voit ça, c'est triste. C'est vraiment triste.
Je reviens là-dessus puisque j'ai interviewé un berger tout à l'heure qui ne se voyait pas affublé d'un fusil de 5 kilos pour protéger son troupeau dans les montagnes. Et c'est pas du tout sa vocation non plus. Voilà, donc il y a vraiment une problématique. Et aussi le problématique du coût de l'éradication du loup qui est faramineuse. On parle d'un budget de 21 millions d'euros au niveau national, mais c'est vraiment...
Encore une fois, l'éradication, c'est pas toujours... Tous les éleveurs ne sont pas d'accord là-dessus. Il y en a qui pensent qu'il n'y a pas d'autre solution que l'éradication et qu'on n'y arrivera pas. Il y en a qui pensent que la cohabitation est possible. Ça, c'est un autre débat. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus de dommages sur les troupeaux. Pardon, du coup, j'ai oublié votre question. Le coût du loup, effectivement, en 2015, 21 millions, c'est ce que la prédation a coûté entre les indemnisations des éleveurs et la production. Je crois que sur ces 21 millions, il y avait entre 2 et 3 millions qui étaient dédiés aux indemnisations. Donc tout le reste, c'est 18-19 millions qui servent uniquement à protéger les troupeaux. Mais je crois qu'il y avait autre chose dans le début de la question, je suis désolée, j'ai oublié.
Bah, on parlait de la chasse.
Oui, effectivement, il y a des éleveurs qui sont chasseurs, mais la plupart ne le sont pas. Et d'ailleurs, la plupart des éleveurs se sont mis éleveurs parce qu'ils adorent les animaux, parce qu'ils aiment bien leur contact. Et donc du coup, ils ne sont pas chasseurs parce que ce n'est pas leur truc de tuer des animaux. Donc effectivement, il y a des gens qui souhaitent protéger leurs troupeaux, mais qui ne peuvent pas passer le permis de chasse, payer la licence, s'acheter un fusil et passer des heures et des heures à attendre que le loup arrive pour le tirer. Parce que tout simplement, c'est pas leur métier, c'est pas leur vocation. Pour ça, heureusement, on a la Fédération de chasse, Fédération départementale de chasse avec laquelle on travaille beaucoup. Et on les en remercie parce que souvent, c'est les chasseurs qui nous aident à protéger nos troupeaux.
Il y a eu quelques semaines une conférence de la louveterie. Globalement, être éleveur aujourd'hui, est-ce que c'est plutôt le bonheur ou de la colère ?
Ça, j'aurais peut-être un peu plus de mal à vous répondre parce que moi, je suis qu'animatrice et c'est une question qui appelle à des sentiments. Je dirais qu'il y a de tout, de ce que je rencontre. Il y a des éleveurs qui sont très, très en colère. Il y a beaucoup d'éleveurs qui sont vraiment dépités, désabusés, qui ont plus confiance en fait, qui sont démunis, qui savent plus comment s'y prendre. Et à côté de ça, derrière, alors c'est ça qui est quand même formidable, c'est que je pense que même parmi tous ces éleveurs, que ceux qui sont en colère ou que ceux qui soient dépités, derrière, il y a toujours cette passion qui ressort. Et si, le bonheur de faire son métier, il y est toujours. Hein. Il y est toujours quelque part derrière. Il faut bien le chercher, mais il y est. Après, je pense que quelque part, les éleveurs, c'est des gens qui ont beaucoup de mal à exprimer leurs sentiments et à communiquer justement auprès des personnes qui ne connaissent rien. Il y en a qui sont très bons pour ça, heureusement. Mais voilà, je pense que le bonheur d'être éleveur, on le retrouve quand même à chacun d'eux, parce que c'est tous des gens qui l'ont choisi et qui sont passionnés de ce qu'ils font.
Peut-être une de vos faiblesses, les représentants d'éleveurs face au loup, c'est le manque de communication que vous vivez encore actuellement, puisque les événements ne sont pas très, relancés dans les médias, et on fait plus la part belle au loup, puisqu'il est beaucoup plus mis en avant grâce à une organisation, voire mondiale,
qui promeut... C'est notre plus grande faiblesse, c'est que les gens qu'on a en face, qui sont pro-loup, qui sont défenseurs de la nature... sont des gens qui ont beaucoup de moyens, qui ont du temps à y consacrer, qui sont peut-être tout aussi passionnés, hein, mais qui ont du temps à y consacrer. Et du coup, effectivement, on se retrouve avec des campagnes de communication qui sont énormes. Ils sont très très présents sur le réseau, sur le net aussi, sur les réseaux sociaux. Alors que les éleveurs, même si le métier se modernise de plus en plus et qu'on a de plus en plus de jeunes qui savent utiliser les outils Internet, et la plupart des agriculteurs, il faut le dire, l'Internet, c'est pas leur truc. Voilà.
Est-ce que pro-loup et anti-loup établissent des contacts pour amener des réflexions et essayer de trouver une harmonie ?
Alors, ouais, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas beaucoup de recul parce que ça fait un an et demi que je suis là. Mais pour en avoir discuté avec mes responsables, à chaque fois qu'il y a eu des tentatives de discussion, justement de compromis, on s'assoit autour d'une table, ça s'est mal terminé. La faute à qui, je sais pas, je le dirai pas, c'est pas tellement le problème. Mais d'expérience, on a toujours eu du mal à communiquer. Parce que le problème du loup, comme tout débat qui touche l'environnement, c'est des débats qui déchaînent les passions. Et quand les passions se déchaînent, c'est toujours compliqué de s'entendre.
Est-ce que le loup cache autre chose dans la problématique ?
Alors, c'est vrai qu'on entend souvent dire que le loup, c'est le bouc émissaire et que la filière ovine se porte mal de toute façon. Mais là, je ne suis pas du tout d'accord avec ça et je combats complètement cette idée. Parce que justement, depuis quelques années, la filière ovine se porte quand même mieux. Il y a des installations en élevage ovin. Le prix de l'agneau a malgré tout réaugmenté. Et malgré tout, on voit une certaine dynamique. Donc dire que le loup est le bouc émissaire et que c'est à cause de ça que ça se passe mal et que ça se passerait mal de toute façon, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a des régions qui se portent beaucoup mieux. Dans les régions où il n'y a pas de prédation, certes, il y a d'autres problèmes, mais il y a beaucoup plus de productivité, ça se voit. Dans la région Rhône-Alpes et PACA, la productivité des brebis, elle est de plus en plus faible. On voit des fertilités de troupeaux qui diminuent suite à la prédation. Et on sait que s'il n'y avait pas ce problème de prédation, certes, il y aurait peut-être d'autres problèmes, mais la fertilité serait quand même mieux, les brebis seraient mieux, seraient plus en état. Donc non, je pense pas que le loup soit le bouc émissaire de la filière.
Eh bien Nathalie, merci d'être d'avoir merci parlé au micro de RDIWA et je souhaite une bonne continuation pour cette fête de la transhumance. Vous serez demain sur le plateau du Vercors.
On sera demain au col du Rousset pour la journée. Il y a notamment des animations qui sont proposées. Donc il y a une démonstration de chiens de troupeau avec l'association des chiens de troupeau de Rome-Isère. Et aussi des balades qui sont organisées en alpage, des balades sur le thème reconnaissance des fleurs et comment les brebis façonnent nos paysages.
Vous parlez de chiens à l'instant. Le syndicat d'élevage ovin aussi s'occupe du chien de berger. Est-ce qu'il y a des annexes ou des activités qui sont liées à ça ?
La CTT de Rome-Isère qui est organisée par des éleveurs qui se sont formés et qui sont formateurs maintenant et qui donc font des démonstrations de chiens, tout type de chiens, papier, sans papier, border collie, berger des Pyrénées, bosseron, pour montrer aux gens comment on fonctionne avec un troupeau, avec beaucoup de brebis, avec peu de brebis.
Une question qui me vient comme ça, est-ce que ça existe des chiens saisonniers ? C'est-à-dire que hors saison, ils sont chez des propriétaires citadins, voire, ou à la campagne, et puis pendant les saisons de pâturage, ils sont fournis pour s'occuper de l'élevage ?
Non, les chiens, en principe, gardent avec leur propre patron. Il arrive que les exploitants prêtent leurs chiens parce que des bergers n'en ont pas ou n'en ont pas assez, puisque comme les bergers, on fait à tour de rôle pour que les chiens ne soient pas fatigués. Mais en général, les bergers, ou ils ont leur chien, ou c'est un exploitant qui leur en prête un, qui veut bien aller avec quelqu'un d'autre que son propre patron. Mais voilà, il n'y a pas de chien citadin qui peut se prévaloir de faire le travail du chien de berger, sans avoir une formation, toujours.
Est-ce que vous pouvez vous présenter et pourquoi vous êtes ici, s'il vous plaît ?
Donc, moi, je suis Aline Guillot. Je suis là en tant que syndicat ovin, en tant qu'ADEME, en tant que représentant de l'association ACTT de Rome-Isère, parce que j'en fais partie, et en tant qu'aussi éleveuse de brebis dans le Diwa.
Voilà. Et puis, merci aussi.
Merci à
Nathalie
vous.
Nathalie, comment ?
Groulard.
Eh bien, bonne journée.